Bienvenue sur notre podcast Match après match.
Comme le veut la tradition, au lendemain de la finale de la Champions League, vous avez rendez-vous avec le dernier match après match de la saison. Bienvenue dans votre talk 100% foot. Pas un, mais deux invités ce soir pour célébrer cette dernière. François Moubondje, Kevin Babou sont là. Salut les gars.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, le consultant qui n'a pas sa langue dans la poche, c'est évidemment Carlos Varela. Je me réjouis de t'accueillir, ça te fait marrer, mais j'ai plein de choses à te demander, Carlos. On commence peut-être par ce barrage entre l'équipe de Super League et l'équipe de Challenge League. Alors, tu nous as prévenu à l'avance, il n'y aura pas de problème, Getse va se maintenir facilement. En même temps, ce n'était pas très difficile, j'espère que tu me l'accordes. Mais ce qui est difficile, par contre, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, c'est à quel point c'est compliqué pour l'équipe de Challenge League de monter en Super League. La différence est vraiment abyssale entre les deux équipes.
Oui, ce qui est plus visible, c'est qu'elle grandit de plus en plus. L'année dernière, Toon n'était pas loin de battre Getse. Mais je pense que la Super League est devenue beaucoup plus jeune. On pioche de la Challenge League et ça ralentit la Challenge League. C'est pas que Getse m'avait impressionné avant les barrages, mais la faiblesse d'Aro sur la fin du championnat qui finit deuxième en se faisant quasiment dominer par tout le monde, je me suis dit, il n'y aura pas photo. Et ça a été, ça a été une débâcle, hein, parce que le match retour a été contrôlé par Getse qui ne voulait pas faire plus. Et puis Aro, c'est techniquement, c'était pas bon, c'était physiquement pareil, et puis il n'y a pas eu photo, donc Getse s'en sort pour une deuxième fois bien. Ils n'ont pas été punis cette fois-ci encore, j'ai envie de dire, mais la Challenge League, pour voir une Challenge League gagner les barrages, je pense que...
Il faut se lever de bonheur. Deuxième barrage consécutif quand même pour Getse, hein. Va falloir quand même se méfier, faire attention, parce qu'on a vu Sion a été un petit peu souvent à la limite avant de couler. Attention, Getse.
Ouais, je pense qu'avec Alain Souter, il va rectifier le tir. Parce que j'ai entendu des joueurs en parlant un peu, ils ont déjà noté, il y a eu un discours, l'attitude de Getse dans les barrages était, il faut dire aussi, ils ont fait ce qu'il fallait faire, très percutant, agressif et tout. Mais puis maintenant, ce sera la balance entre est-ce qu'Alain Souter va faire tout ce qu'il veut et puis ils vont peut-être moins arrêter ses prêts, joueurs du Nain. Parce que là, il y a sur tous ceux qui ont été fêtés, il y en a 11 qui vont partir. Bah, ça, il faut arrêter parce qu'au bout d'un moment... tu le payes.
Allez, on va partir dans notre première thématique de l'émission. On a déjà des personnes qui nous écrivent sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre évidemment sur notre page BlueSportFR. Posez vos questions, n'hésitez pas. Il y a deux légendes qui sont là, même trois, nous dit Ruxney. Il y a trois légendes sur le plateau. Elles sont là, hein, évidemment. On commence par cette finale de la Champions League, si vous le voulez bien. Une victoire 5-0 du PSG. Une victoire écrasante, une démonstration du PSG. Démonstration, ce serait mon mot. Mon terme, si je devais en utiliser un seul, vous, ce serait quoi, par exemple, François ou Kevin, en un seul mot avant d'entrer dans les détails?
Moi, je penserais détermination.
Détermination, Kevin?
Tout simplement travail.
Travail. Et Carlos?
Sur la finale.
Sur la finale.
Débâcle.
Débâcle, parce que lui, il prend le contre-pied, j'étais sûr que tu ferais ça. Magnifique, comme ça, on pourra parler du PSG et de l'Inter. Bon, moi, personnellement, si on commence par l'Inter... pour rebondir à ton mot débâcle, moi j'ai rarement vu l'Inter autant dominer, autant à la rue dans un match cette saison, même si je cherche dans ma mémoire sur les deux dernières saisons, en retard surtout, dépassé techniquement, dans la possession, dans tout ce qu'on a pu voir. Vous avez joué au foot, tu joues encore, tu viens d'arrêter il y a pas longtemps, tu as arrêté il y a un peu plus longtemps, mais... Ce genre de prestation, c'est dû à quoi? Ça se traduit par un manque de préparation? C'est la prépa qui a été ratée?
Non, moi je pense pas. Je pense que ils ont eu pas ce bon match. Ils ont eu des coups durs aussi en perdant le Scudetto. Et maintenant, moi je pense que du côté de Paris était prêt. Ils étaient en mission. Je suis beaucoup parce que comme j'ai joué dans le championnat français, j'ai écouté quelques interviews des joueurs du PSG tels que Ousmane Dembélé et Doué. Il a beaucoup évoqué du sens que on va pour écrire l'histoire. Donc c'est plus fort que tout. Donc ces mots-là, pour moi, c'est vraiment... Ils sont prêts à aller au combat et ils ne reviendront pas sans la coupe.
Moi, je suis allé au Media Day du PSG il y a 10 jours et c'est exactement les termes qui avaient été utilisés par tous. Hein. Écrire l'histoire. C'est-à-dire qu'entre la fraîcheur plus la volonté d'écrire cette histoire, il y avait peut-être, allez, un petit avantage, mais tu ne peux pas jeter une finale de Champions League à ce point-là, Carlos.
Non, mais après, il faut parler de Paris. Pour moi, Paris...
Mais parlons de l'Inter.
Ils ont eu en face une équipe qui les a baladés. Ils récupéraient le ballon, ils les ont pressés, ils n'arrivaient pas à sortir du pressing, ils couraient après le ballon. Donc on peut dire l'Inter n'était pas là. Moi, ce qui m'a manqué de l'Inter, c'est justement ce que jamais attendais, les Italiens, la révolte, ils vont mettre le pied, ils vont commencer à bouger comme ils ont bougé Barcelone et d'autres avant. Et ça, ils n'étaient pas là. Pour moi, ils étaient dépassés surtout, mais c'est des matchs comme ça. Mais je vous laisse parler, mais moi, quand il y a autant de différences comme ça, c'est plus Paris, moi, qui m'a impressionné. Paris m'a plus impressionné, encore une fois,
que l'Inter t'a déçu.
Que l'Inter m'a déçu, ouais.
Ok. Ça. Mais si on va un petit peu plus dans les détails, si on voit, par exemple, la prestation d'un Di Marco, par exemple, extrêmement décevant, Di Marco, on n'a pas vu le Di Marco qu'on avait la saison dernière, il était un peu plus en difficulté déjà cette saison. Bastoni, qui n'avait plus joué depuis un bon moment. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'on va mettre un Bastoni quand t'as un Bissek ou quand t'as un Carlos Augusto ? Il y a quand même des erreurs dans le coaching, à mon avis, aussi.
Ce qu'on peut voir, par exemple, pour revenir à Di Marco, on voit que depuis quelques mois, il a peut-être quelques pépins physiques parce que ça fait, je pense, 2-3 mois qu'il finit presque jamais les matchs. Donc, on pense de ce côté-là, il pense qu'il y a peut-être un petit problème. Par rapport à lui physiquement, on a vu hier encore, malheureusement, il est passé à côté de sa finale, comme le reste de l'équipe. Et après, Bastoni pour la titularisation, je pense, parce que ça a été un taulier pour... Pavard, ouais. Qui était un pilier cette saison, qui a fait une très très grande saison. Et je pense que voilà, il avait toute sa confiance, donc son équipe il va le faire le match dont l'équipe a besoin. Après, malheureusement, il a dû sortir. Et droit derrière, Bissek se blesse. Et malheureusement, dans le ralenti, ça n'a pas l'air très, très joli. Mais voilà, encore une fois, comme l'a souligné Carlos, c'est vraiment la performance exceptionnelle de Paris. Et d'où mon mot, du travail de ce que fait Luis Enrique depuis qu'il est arrivé.
Parce que là, on parle de deux latéraux qui sont là, gauche et droite. Voilà. Non, mais la performance qu'ils font, même contre Barcelone, elle est catastrophique. Là, il est reconduit à cette finale. Mais il y a juste Barcelone qui n'a pas su défendre parce qu'il n'aura pas de la suffisante. Mais ils ont défendu n'importe comment, puis ils ont pris ses buts. Mais déjà là, Di Marco qui sort, il se fait remplacer.
Exactement.
Il se fait, entre guillemets, humilié par... Donc ça ne vient pas de maintenant. C'est peut-être juste que c'était peut-être pas... Si je dis que ce n'était pas l'équipe qui devait passer en finale, on va dire non, ils ont quand même éliminé Barcelone. Ce qui est vrai, mais on a très bien vu déjà contre Barcelone les deux matchs. Je pense que beaucoup se réjouissaient de voir Paris-Barcelone. Donc on dirait qu'il y a de la fatigue quand même depuis 2 mois de l'Inter.
Oui. Et comme l'a dit François, le fait de ne pas avoir gagné la Coupe d'Italie, de ne pas avoir gagné le Scudetto, il y avait un triplé qui était possible finalement, ces saisons blanches. Mais encore une fois, tu as un Di Marco comme ça, pourquoi à la pause il est toujours là? Moi j'ai entendu une interview de Steven Gerrard hier soir, quand on lui a demandé... qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que doit faire Simone Inzaghi? Il a dit, poliment, je montrerai à Di Marco où sont les douches, pour ne pas le faire revenir. Alors, il revient quand même. Et dans le match dont tu parles contre le Barça, on a quand même aussi là un Simone Inzaghi qui a beaucoup, beaucoup attendu avant de faire ses changements. Son équipe était carrément à la rue et il a failli se faire surprendre, justement. Alors, il y a des changements ou des attitudes d'Inzaghi qui ne m'ont pas plu, moi, personnellement, hier soir.
Ouais, on peut
parler. François, je te donne le micro de secours. C'est la première fois que ça nous arrive. Le tien ne fonctionne pas, donc tu l'inaugures depuis le début de la saison. Donc pour la dernière, tu peux.
Moi, je rejoins Carlos parce que je dirais par rapport à l'Inter, Di Marco, il était un peu en difficulté parce que pour moi, ce match de Barcelone, Yamal était énormément très fort. Maintenant, ce que je pourrais davantage dire, c'est que pour moi, le Barcelone de ce match-là devrait passer, la logique. Parce que ce but à la dernière minute qu'ils prennent, ne devrait pas exister. Justement, je pense que soit il y a une faute ou bien ils vont trop vite presser. Mais j'ai pu voir des lacunes, entre guillemets, de l'Inter. Parce que c'est normalement une équipe qui ne prenait pas énormément de buts dans cette compétition, et même en championnat d'ailleurs. Et là, en 2 matchs, ils ont quand même pris 6. Même s'ils en ont mis 7, mais ça montre aussi qu'ils ont pris 6. Et pour moi, une équipe comme Paris, qui a cette jury, qui a d'éventualité plusieurs joueurs qui ont la possibilité de marquer, ça peut aussi amener un danger. Et défensivement, c'est une équipe un peu plus solide. Donc c'est pour ça que pour moi, on va dire, le score est choquant, mais ça ne me choquerait pas que Paris ait remporté.
Ouais. 6 buts encaissés et plusieurs miracles de Yann Sommer, qui ont qualifié l'Inter pour la finale. Kevin, je voulais te poser une question sur Lautaro Martinez. Moi, je me tue dans les émissions, dans match après match, à dire que c'est un attaquant qui est sous-coté, qui fait partie pour moi des 5 meilleurs attaquants du monde. Et hier soir, j'étais extrêmement déçu. Je ne sais pas s'il a touché 5 ballons. Dans le leadership, il n'était pas là. Dans l'attitude, il n'était pas là. Dans le langage corporel, il n'était pas là. De la part d'un leader, d'un joueur comme ça, on s'attendait à plus.
Oui, exactement. J'ai eu ce débat après le match avec mes amis. C'est qu'on a... Malheureusement, il était transparent. Ce que j'ai dit, moi, je pense même pas qu'il ait touché 10 ballons. Je pense même pas qu'il a dû faire une frappe. Et malheureusement, aussi, quand dans ce genre de match, quand on voit que le leader n'arrive pas à performer, ça a aussi un impact mental sur le reste de l'équipe. D'où il est capitaine et d'où pourquoi aussi l'Inter fait aussi des très belles saisons, parce qu'il est toujours là en train de performer, de marquer des buts, de sauver l'Inter, de créer des occasions. Même sans le ballon, il se bat à un moment, alors que hier, j'ai senti l'Inter un peu fatigué, un peu un manque de dynamisme aussi. Et comme disait François, comme tu le disais toi, je pense que c'est aussi à cause de tous les échecs qu'ils ont eus, Scudetto, championnat et le début de match hier. Je pense qu'ils ont été très surpris de se prendre un but après 12 minutes.
Oui,
et
cet engagement, Carlos.
Moi, je vais le défendre parce que quel attaquant aurait existé dans cette confrontation ? En fait, si on regarde le match, c'est pas manque de volonté. Même les buts, parce qu'on va dire, ils ont pris 11 buts là contre Barcelone et Luis Enrique qui est maison Barcelone. On va dire, c'est un jeu qui leur va pas. Mais si on regarde les buts, ils sont très loin. Hein. C'est pas des buts où dire il y a eu manque d'engagement. C'est ils les ont baladés entre les lignes. Ils ont trouvé les 16 mètres à chaque fois. Facilement, puis ça a joué direct, puis il y a eu la finition. Le but, le 1-0, ça fait très mal d'encaisser ce but, parce que c'est des buts qu'on voit à l'entraînement. Mais ils ont tellement bien joué le coup, puis ils les ont surpris. Et Lautaro, tu peux faire l'aboyeur, hein, le faux aboyeur. Allez, ragazzi, si on y va. Mais il a vite compris, comme toute l'équipe, je pense, qu'on est baladé. Et je pense que tu peux mettre tous les attaquants que tu veux. Comment tu veux rentrer dans ce match ? Il a essayé de faire du pressing. Il trouvait Neves, il trouvait Fabien Ruiz, il ne perdait pas un ballon. À un moment, ils ont dit 1-0, c'est pas mal. On va quand même les faire courir un peu plus. Non, mais dans toutes les lignes, il n'y a même pas eu 5 minutes où tu te dis on va les mettre en difficulté. Donc, c'est très compliqué.
Ouais, on ne le trouvait pas, en fait. C'était impossible de le trouver. Enfin, lui ou Thuram, d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, pour moi, Paris, pour moi, était en totale maîtrise. Ouais. Parce qu'en aucun moment, on sentait qu'il peut être en danger, hormis s'il perdait la balle d'eux-mêmes. Mais ils étaient vraiment en totale maîtrise.
Ouais. J'ai une petite question pour toi, François. Dans un article de Tim Guimain dans le Blick, on a appris que dans ta jeunesse, l'Inter avait appelé chez toi. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Moi, j'ai lu l'article, mais peut-être les téléspectateurs de Blue.
Bon, après, c'est un peu flou pour moi, parce que j'étais à Saint-Jean avec un entraîneur qui s'appelait Pep. Et j'ai fait ce tournoi à Rimini, parce que je pense qu'il y avait des équipes allemandes, italiennes. Et ce qu'on me dit, en fait, le coach me dit qu'on joue à terrain neuf,
ouais.
Les buts à neuf. Et j'avais marqué un but, j'étais plus en taille, j'avais sauté plus haut que la latte. Et j'avais marqué un super but de la tête et tout le monde s'est arrêté, a commencé à m'applaudir. Et justement, il y avait des grands clubs comme peut-être l'Inter ou autre. Et ils ont essayé en tout cas de contacter ma maman. Mais
c'était avant Servette, ça ?
C'était avant Servette, oui.
Moi, je l'ai vu arriver de Mérin à ça. T'es arrivé à 19 ou 20 ans, un truc
19 ans. Ouais.
Assez tard aujourd'hui, on dirait.
Ouais, tard aujourd'hui. Ouais.
Mais il avait la mentalité pour réussir. Je l'ai dit à tous les coéquipiers qu'on avait. Moi, j'étais enfin. Hein. Mais il avait un respect de. Puis maintenant, quand j'entends ça de l'Inter, je me dis, il y en a Jack qui aurait peut-être volé. Mais lui, même quand il est arrivé de Mérin à Servette, il demandait des choses. Il était à l'écoute de tout le monde. Je dis ça parce qu'on ne voit quasiment plus. Maintenant, c'est 4 bons matchs, il y a un Servette qui te prend, ils veulent déjà un nouveau contrat et puis se barrer, je ne sais pas où. Et il avait cette attitude, puis là, je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Je peux bien le croire qu'il ne s'est pas emballé en disant « Non, moi, je suis là, je fais Saint-Jean, Mérin, puis Mérin, Servette. » Ça colle avec son début de carrière, comme quoi on peut réussir sans être trop pressé et puis d'aller gentiment.
Ouais, peut-être avant de passer à Paris... On pourrait évoquer ça, peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent. Une carrière de footballeur, il faut la construire intelligemment, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des moments difficiles, il y a des moments plus faciles. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus, surtout à eux, surtout aux jeunes. Kevin, par exemple.
Dans une carrière de footballeur, on va dire dans une carrière de sportif en général, il y a toujours plus de bas que de haut, je veux dire. Et le plus important pour, en tout cas moi, ce qui m'a construit, c'est de comment tu te relèves de tes échecs. Parce que tu en auras toujours, sur, que ce soit sur une blessure, sur le fait que tu sois sur le banc, que tu ne comprends pas, un transfert avorté. Et le plus important, c'est toujours avoir cette mentalité de croire en soi et de jamais lâcher et de poursuivre ses rêves. Parce que beaucoup de gens voient le petit bout de l'iceberg hors de l'eau, alors que dans le foot, il y a énormément que les gens ne voient pas de tous les jours. Et il y a aussi la pression, il y a aussi beaucoup de joueurs maintenant qui parlent de dépression en dehors du football, parce qu'il y a tellement autour de nous tellement d'attentes, et que pour pas mal de joueurs, c'est difficile de gérer tout ça. J'avais même entendu qu'un joueur, je ne sais pas si c'était Mert Seker, qui disait qu'avant chaque match, il allait aux toilettes vomir, je crois, parce qu'il n'arrivait pas à gérer la pression des matchs.
Ouais, c'est compréhensible. Hein. Les jeunes à la télé aujourd'hui, ils voient la finalité, ils voient la fin quand tu as presque dépassé la ligne d'arrivée, alors que ce n'est pas du tout comme ça.
Non, après, Kevin a très bien résumé. Hein. C'est surtout le mental aussi, je pourrais ajouter dans ça. Parce que pour y arriver, Carlos a dit bien, avant, il faut poser des questions, il faut croire en toi. Déjà, c'est très important. Parce que c'est également fondamental. Parce que si tu veux réussir et performer dans le haut niveau, avoir du respect. Parce qu'avoir du respect, c'est pas se laisser marcher dessus, mais avoir du respect par rapport aux aînés, parce qu'ils ont énormément à nous apporter. Comme on dit toujours, à bon entendeur. C'est celui qui arrive à acquérir tout ce qui est des positifs et pouvoir le reproduire à sa manière.
Ouais. À bon entendeur, pour les plus jeunes, c'est un peu l'équivalent pour vous du karma, je crois.
Ouais, mais c'est deux. Pour beaucoup, pour les jeunes, c'est des stars. Et moi, je reviens toujours là-dessus. Kevin fait la une des journaux, François fait la une des journaux, et c'est les seuls qui vont voir. Mais moi, je peux t'en présenter 199 qui se sont vus plus beaux, qui ont pas respecté le métier et qui se sont cassés la gueule, mais on ne le sait pas, parce que le journaliste, il ne va pas écrire ça. Il va écrire deux jeunes voix qui ont fait la classe. Il y a eu des carrières différentes. Moi, je le dirais aux jeunes et puis à eux, mais à un moment, je suis sûr qu'eux, ils ont respecté leur employeur. C'est-à-dire, être bien entouré, pour moi, ce n'est pas avoir un pote qui va dire des bonnes choses. Il ne faut juste pas vouloir trop tout de suite, parce que j'ai vu que Kevin, il a fait une carrière à 20 ans, il était, à 22 ans, il était là. Oui, mais si tu veux déjà, à 18 ans, penser comme ça, mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on en connaît tous qui se sont cassés la gueule, qui se sont pris le mur. Ça n'intéresse personne. On va parler que des 3-4. Mais il faut juste leur dire que sur 200, il y en a 3. Oui. Et bien là, il y en a déjà 2. Il n'y en a plus qu'un sur 200. Et il faut écouter faut respecter son maillot, son employeur.
Mais tu as raison, parce que si on parle concrètement, je suis plus dans Kevin, dans sa génération, il y en a combien qui sont sortis, dans ma génération, il y en a combien qui sont sortis, qu'on a joué aux Servettes, ben, il y en a très peu. Ben, vas-y, pas énormément. Quoi.
Et même dans la génération avant nous, on n'avait pas énormément de modèles. Il y avait Senderos, Duroux, c'est Patrick Muller. Mais avant ça, il n'y a pas vraiment un grand monde. Et après, avec le 95, dans le 4 et 95, il commence à avoir plus de joueurs avec Denis, Derek, Ulysse. Et du coup, maintenant, il y a un peu plus de modèles pour les joueurs à Genève, surtout. Parce qu'à Genève, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient devenus pros. Et du coup, même à l'époque, quand on disait qu'on voulait devenir joueur de foot, on disait que c'était un hobby.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est crédible.
Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, bah, voilà, grâce au travail aussi qui est fait, aussi, par exemple à Servette, dans les clubs suisse-romande, on arrive à plus sortir de joueurs et on est content aussi aujourd'hui d'être des modèles pour les générations futures.
Ouais, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, c'est vous les modèles. Et on voit aussi une équipe de Suisse qui a des joueurs romands. On voit des Eki Amdouni, on voit des Dan Endoy, on voit des Andy Zekiri de temps en temps aussi. Toi, enfin bref, il y a vraiment cette notion de nouvelle génération. Et vous êtes les modèles. Vous devez montrer un certain exemple.
Mais surtout qu'il y a le talent. Il y a beaucoup de talent à Genève. Maintenant, il y a des joueurs qui ont cette intelligence de pouvoir briller ailleurs ou bien dans le canton de Genève. Mais comme Carlos a dit, ne soyez pas trop non plus avenants à vouloir partir trop vite. Faites-vous un nom. Travaillez, parce qu'il y a des gens qui sont là pour regarder aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont encore des outils pour pouvoir être mieux en vue qu'auparavant, notamment à son époque.
Ouais, j'aurais pu citer aussi Alvin Sanchez, Vincent Sierro. Enfin bref, j'ai donné des noms comme ça, mais.
Que je te cite ceux qui n'ont pas réussi. Ça,
non, mais tu vas casser l'ambiance. Non, mais oui, il faut en parler. C'est, non, c'est vrai, bien sûr. T'as
totalement c'est pour protéger
raison.
Les jeunes que je comprends. Dis ça. Ils vont vous vendre le produit autour de vous. Regardez ce que ça peut devenir, mais montrez-leur d'abord ceux qui sont cassés la gueule parce qu'ils ont fait tout faux. Puis après, vous choisissez votre chemin. C'est juste pour leur rendre service. Et ça va être de plus en plus compliqué avec l'appât du gain. Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite, tout le monde maintenant court après l'argent, mais le joueur. Nous, on n'avait même pas à l'époque l'envie de partir. Maintenant, on entend ça. Puis François, il l'a dit, pas avoir envie de partir trop vite. Nous, on pensait pas. Pourtant, il y a les joueurs que tu as cités avant, des Sendero, t'es pas dans. Tu veux partir. Joue d'abord au thé, donne tout, t'inquiète. Tu n'auras besoin de personne. Pour partir si tu performes, ça c'est sûr.
Ouais. Merveilleux moment. Hein. On est parti d'une question Inter à François et puis on a passé presque 10 minutes, mais c'est hyper riche et très très intéressant. La preuve, il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans cette émission-là. Donc je vous propose de parler de Paris quand même, un petit peu, ou même beaucoup. Victoire tellement aboutie. Pour moi, la victoire finale la plus aboutie depuis très très longtemps. J'ai fouillé un petit peu dans ma mémoire. J'ai volontairement pas souhaité aller chercher sur Internet à quel moment il y a une équipe qui a vraiment autant écrasé une autre. Même depuis, là, c'est toi que j'aimerais entendre, Carlos, depuis le coup d'envoi. Moi, ce coup d'envoi du PSG, il m'a halluciné.
La touche
ouais, là-bas. Pour mentalement presque entrer dans la tête de l'adversaire.
Ils les ont pris à la gorge. Et je pense que Luis Enrique s'est dit, si on met le 1-0, c'est bon. Parce que Inter a souvent mené, quasiment tout le temps mené. Après, ça va être plus compliqué parce qu'ils pourrissent un peu le jeu. Ils peuvent nous mettre le deuxième comme ils l'ont fait. Je pense que c'était en mission de marquer le 1-0. Puis c'était terminé. Le match est terminé à la 19e minute. Tu dis, t'es surpris depuis le coup d'envoi. Mais depuis le match où ils étaient à la cave, ils étaient sous l'eau avant City. Puis ils font pam, 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 pam. Il n'y avait qu'une équipe et le Barça. C'était les deux équipes qui nous proposaient quelque chose. L'Inter a facilité la chose, mais le but, ils l'ont mis. Tout était parfait. Il n'y a même pas de discussion. Et c'est rare parce que. Une finale, c'est souvent des petits détails, personne ne veut perdre, personne ne veut l'erreur. Eux, j'ai l'impression que dès le début, en tout cas, ils nous ont fait comprendre ça derrière nos télés, on va vous écraser, on est sûr de notre football.
Alors j'en ai une tout à coup qui me vient à l'esprit, mais vraiment comme ça, mais pas de Champions League, l'Espagne-Italie à l'Euro 2012.
4-0.
4-0. Là, j'ai eu la même sensation de maîtrise d'une équipe sur l'autre. Les deux équipes s'étaient retrouvées pour le premier match de la phase de groupe, 1-1. Et puis pour la finale.
Silva, Jordi Alba.
Ouais, non.
J'étais devant la télé. C'était pas un jour dans un bar.
On reprend Paris. Surclassé l'Inter en fin de cycle en Champions League. Surclassé Reims en finale de la Coupe de France. Aucun adversaire en Ligue 1. Trophée des champions contre Monaco. Est-ce qu'on est dans une année zéro, dans le début d'un cycle pour le PSG?
Je pourrais dire oui quand même. Parce que. Ils ont mis les choses en place, ils ont fait des erreurs, on va dire, par le passé, on va dire, se performer avec tous les stars qu'ils ont eu auparavant pour pouvoir maintenant se balancer sur une nouvelle jeunesse et créer ce noyau, ce groupe. Parce que j'en parle aussi avec des amis aussi, autour de moi, on sent que c'est un groupe. Mm-hmm. C'est ça qui fait leur force. Et on a vu, comment ça s'appelle, le Hongrois. Vaskrivia,
d'accord, Vaskrivia, ouais.
Georgia.
Voilà, ouais. Et la course qu'il fait,
ouais.
À la 80e minute. Même alors, quand tu es défenseur.
Je te pose une question là-dessus parce que je l'avais préparé vu que tu parles de lui. C'est un joueur qui défendait pratiquement jamais à Naples. Et c'est quand on se souvient de Mbappé à Paris, c'est un joueur qui n'aimait pas défendre. Alors comment tu expliques que tout à coup ce joueur-là s'est mis à défendre sous Luis Enrique?
Parce qu'on l'a fait comprendre qu'il n'est pas au-dessus de Paris. C'est tout simple. Il vient se mêler dans une équipe. Parce que le coach a fait bien comprendre, même à Ousmane Dembélé, si tu ne te plies pas à l'équipe, tu es sous le banc. C'est aussi simple que ça.
Kevin. C'est aussi quand tu vois ton coéquipier faire une course pour toi, tu dis, bah alors moi, la prochaine fois, je vais aussi mourir pour toi. Et je pense que Luis Enrique a vraiment réussi à créer un vrai collectif. Et surtout, la deuxième partie de saison, on a pu voir que Paris a vraiment survolé dans les trois compétitions où ils étaient. Et après, en plus, il faut se rappeler aussi que Paris vient de loin, parce qu'ils ont fait les barrages. Ils ont été barragistes et ils finissent par gagner la Champions League. Et on peut juste voir les progrès qu'ils ont fait depuis que Luis Enrique est là. Est vraiment incroyable. Mais franchement, le plus important, c'est vraiment le collectif qu'il a réussi à créer avec une équipe en plus assez jeune.
Ouais.
Si je peux juste rebondir sur ce qu'il dit, pour moi, il a dit la chose la plus importante, c'est que Luis Enrique, il a tellement fait le boulot, et il y a une interview où il dit, avant la saison, il dit, quand on parle d'Mbappé qui part, il fait, au moins, je serai sûr, l'année prochaine, tout le monde fera ce que moi, je dis, et pas ce qu'ils veulent. Bon, il l'a imposé. Et en fait, quand ce travail est super bien fait, tu peux prendre Kvaratskhelia. Bah, je pense que l'entraîneur, il n'a même pas besoin, comme il a dit, de lui dire, hey, tu sais, ici, il faut travailler pour lui, si tu vois que les autres l'ont fait. Donc, je pense qu'il a calqué ça. C'est aussi sa coupe, en grande partie, c'est sa coupe. Il a calqué ça à toutes ces stars qui sont moins que celles qui sont parties. Après, tu peux faire venir continuer. C'est comme quand il y a des jeunes, on a tous intégré le groupe des pros. Quand il est bien sain et puis que les résultats sont là, puis tout le monde bosse, pour un jeune, c'est beaucoup plus facile aussi. Ouais. Et lui, ce n'est pas des jeunes, mais quand tu viens, je pense que tu n'as pas besoin de trop dire. Le travail est fait en amont. Mmh. Et comme il dit Kevin, tu vois les autres, il dit, moi, je vais faire ce que je faisais à Naples. Je pense que tu ne joues plus.
Mmh. Ouais, Kvaratskhelia qui est champion de France, champion d'Italie et vainqueur de la Champions League hein, au passage. Tu parlais d'un jeune, j'aimerais bien parler de Désiré Doué, seul joueur de l'histoire de la compétition à être impliqué sur 3 buts en finale, plus jeune joueur à inscrire un doublé en finale, MVP évidemment de la rencontre. Votre jugement sur ce joueur, on rappelle qu'il a 19 ans.
Un des prochains joyeux de la France. On voit qu'il est extrêmement talentueux. On voit qu'il est très complet. Évidemment, il est encore jeune. Il a une très grande marge de progression encore. Mais on voit aussi qu'athlétiquement, c'est un monstre. On voit aussi, quand il enlève son maillot, on voit quelle bête. En plus de ça, il a une très bonne mentalité. D'après ce que je peux entendre dans les couloirs du football, que c'est un très grand travailleur avec une très bonne mentalité et avec un jeune qui a une personne qui a toujours envie d'apprendre et qui pose beaucoup de questions. Donc, qu'il a un très, très bel avenir devant lui.
Comme toi, François. Alors, hyper mature aussi. Je l'ai eu à mon micro il y a des jours. Hyper mature à 19 ans. J'arrête pas de me dire depuis hier soir. Moi, j'ai la banane depuis que je me suis couché hier soir. Je me suis dit, mais bon sang, on va avoir Yamal et Doué pendant... Et je ne sais pas, les 10 prochaines années, on va se régaler avec ces deux joueurs-là. D'autant plus que j'ai l'impression qu'on nous a quand même vendu Yamal souvent, parce que peut-être on voit plus le Barça. Doué, on le voit plus si on suit la Ligue 1. Et là, hier soir, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un peu découvert Désiré Doué.
Mais après, Doué, pour moi, il a été bien conduit par Luis Enrique. Il n'a pas grillé tout de suite, parce qu'il a fait progressivement entrer dans l'équipe, progressivement prendre confiance. Et que ça a donné maintenant la confiance qu'il a sur le terrain libéré. Parce que je pense que ce transfert à Paris Saint-Germain, il était heureux, il voulait faire les choses bien, il était, on va dire, super motivé, mais il y avait encore besoin de temps. Et Enrique, je pense qu'il a joué son bon rôle pour pouvoir le laisser briller au niveau de cette finale maintenant.
Ouais, idéal hein, pour les jeunes comme Barcola, comme Doué. Peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu de Luis Enrique qui avait dit la saison dernière « On sera plus fort sans Mbappé, on devra marquer autant de buts, mais en groupe, que Mbappé tout seul. » Et finalement, je crois qu'à cette époque-là, on s'est tous posé des questions, on s'est tous dit…
Il a assumé.
Ouais, il a assumé et à la fin, on est quand même obligé de dire qu'il a eu raison.
Et puis en France, il y en a plusieurs qui doivent lui dire pardon de pas mal de trucs parce qu'ils voulaient le virer, et on ne comprend pas ce qu'il dit, parce qu'il joue un peu avec la presse, il a… Cette provocation à la française, il l'a toujours esquivée. Maintenant, on va lui lécher les pieds, évidemment. Mais oui, il a assumé, puis il a dit des propos durs, puis il ne s'attaquait pas à n'importe qui. Quand tu convoques Mbappé, puis tu sais que tu es filmé, puis tu lui fais « Bonhomme, il faut défaire ça, ça, tu ne vas pas où tu veux », tu t'attaques au gars, capitaine de l'équipe de France. Donc il s'est fait des ennemis. Et après, il a encore osé dire « On va être plus fort, je vais m'occuper de toutes les positions et pas de celui qui va faire n'importe quoi où il veut ». Et puis les jeunes… Mais ils ont l'entraîneur idéal, parce que toi, tu as dû savoir, mais toutes les équipes qui voulaient passer, Luis Enrique, pas un mot de ces joueurs pas bons, que ce soit en Italie, partout. Ouais. Puis les Doués, les Désiré Doué, je pense que lui, il les a vus. Et je pense qu'il disait, s'il y a les Neymar, Messi, Mbappé, on ne les aurait pas connus, ces gars. Donc. Mm-hmm. Et puis lui, c'est vrai qu'à Barcelone, déjà, il avait il donne cette confiance. Il paraît que l'humain, il est exceptionnel. On connaît son histoire. Et jusqu'au bout, il est resté dans son rôle. Quand on lui fait à la fin, ça, il m'a impressionné. Moi, j'ai pleuré avec l'histoire de sa fille. Le choréo des Parisiens. C'est la première fois dans ma vie que je vois un choréo après la 90e minute. Donc ça, je les admire, les Parisiens, parce que sinon, c'est des banderoles. Président, casse-toi. Entraîneur, casse-toi. Mais c'est-à-dire qu'ils l'ont préparé. Puis, normalement, tu penses qu'à fêter. Et même là, il dit, ouais, c'est joli, mais... Et tout le monde, mais quoi ? Il dit, ben, j'ai pas besoin de gagner la Champions League pour penser à ma fille et tout. Il a des lignes, Luis Enrique. Tu le fais pas dévier, que ce soit privé ou dans l'équipe. Ouais. Et l'équipe, l'interview d'Hakimi, il a tout résumé.
Bien sûr.
On veut ce mec avec nous.
Moi, j'ai eu la première larme avec le t-shirt. Ce dessin qui représente lui et sa fille. Deuxième larme avec la choréo dont tu parles. Ouais, on a des enfants ici. Ouais, moi, j'arrive pas à... Rien qu'en imaginant un départ d'un enfant aussi jeune, ça me bouleverse. Et lui, il est tout le temps là en train de te dire qu'en fait, il a eu de la chance d'être 9 ans avec cette petite et puis qu'elle est toujours là. Et puis en fait, il t'apprend tellement de choses, alors que en fait c'est un coach, c'est un entraîneur de football, et moi je trouve ça assez extraordinaire.
Il y en a peu, hein. Ouais. Là je me pose la question, je pense que vous avez tous plus de 30 ans, hein. Votre carrière elle est passée.
T'en as 30 pile poil.
Ouais, ouais, mais c'est à
30-34.
Non, mais on peut leur poser la question, des entraîneurs marquants sur une carrière, t'en as peut-être 10-15-20, mais il y en a peut-être deux, et les deux, j'en parle avec plein de gens, c'est tout le temps ceux que humainement ils t'ont encadré, donc ils t'ont cerné, puis ils t'ont fait grandir. Pas celui qui va te dire, ouais, il m'a fait jouer en 3-5-2, il était terrible, l'idée. Ce qui te marque, c'est, le foot, c'est beaucoup plus. Parce qu'ici, le talent, ils l'ont, mais 70%, c'est ta confiance, t'es bien avec ton coach et tout ça. Et il y en a très peu. Hein. Lui, c'est clair qu'il fait l'unanime.
Ouais, alors rapidement, vous auriez un deux noms que vous pourriez nous donner de coachs qui vous ont marqué?
Premier qui vient à l'esprit, c'est Adi Hütter.
Ouais.
Moi, j'aurais dit Joao Alves.
Ah oui, d'ailleurs j'ai une... Bah oui, forcément, parce que c'est celui qui t'a aussi fait changer de rôle, qui t'a placé
ça, là. Hormis ça, si j'enlève footballement parlant, l'humain qu'il est, justement. Comment il a dû conduire l'équipe aussi. Si on pose la même question à d'autres membres de mon équipe, ils diront la même chose.
Ouais. Et toi, Carlos?
Bon, mais c'est toujours... Moi, j'ai une affection pour Martin Andermatt. J'ai eu des grands entraîneurs. Mais lui, c'est celui qui m'a pris à part, comme son fils. On va parler maintenant de discipline, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation. Donc il a investi du temps pour me parler de tout autre chose que le foot. Et c'est comme par hasard là où je me suis senti leader, à 27 ans. Et on parle de gamins qui ont 18-19 ans, ils sont déjà leaders. Mais voilà.
Bon, en tout cas, pour Luis Enrique, Dembélé mériterait de gagner le Ballon d'Or. C'est une question que vous êtes en train aussi de nous poser sur YouTube. Hugo demande qui mérite le Ballon d'Or. Est-ce que c'est trop tôt ou pas ? Dembélé, Donnarumma, forcément, qui sont ressortis dans la presse après cette victoire en finale de Champions League.
Moi, je dirais trop tôt, parce que voilà, on est fin mai, 1er juin. Après, je ne sais pas aussi à quel point la Coupe du Monde de club va aussi influencer les votes. Après, quand on regarde la performance de Dembélé, surtout dans ce début d'année, incroyable, celui qui a porté le PSG à Paris, n'arrivait pas à une performance exceptionnelle comme tout le monde l'aura attendu, mais il a fait son travail dans l'ombre, il a fait briller ses collègues, mais c'est sûr qu'il est, je pense qu'il sera entouré dans les 5 premiers en décembre, même si le chemin est encore long, qu'il y a la Coupe du Monde des clubs encore qui arrive.
François,
c'est vrai que je veux venir à ce que tu as dit, Kevin, c'est vrai que Ousmane, il a fait un travail énorme hier, il n'a pas marqué, il a quand même fait, je crois, 2 assists.
Ouais, la talonnade, là.
Et hormis ça, il s'est mis vraiment au service de l'équipe, parce qu'au niveau de pressing, au niveau de tâches défensives, ça n'en parle pas trop pour un attaquant, c'est énorme. Et vraiment, pour ça, il a su se faire profil bas aussi. Il n'était pas obnubilé pour le but.
Ouais.
On ne l'a pas senti chaque prendre le bon ballon et vouloir marquer.
Mais là aussi, c'est Luis Enrique qui l'a transformé, ce joueur. C'est pas celui de Dortmund, c'est pas celui de Barcelone, c'est pas celui de la saison dernière. Peut-être c'est conjugué avec le départ d'Mbappé, j'en sais rien, mais c'est un autre joueur. Clairement. Ah, clairement. Donnarumma, Carlos?
Oh, j'ai de la peine, catégorie gardien, c'est à côté, mais c'est vrai, mais est-ce qu'il y en a déjà un qui l'a eu? Non, hein.
Ballon d'or, gardien.
Ils ont leur prix à côté, mais meilleur gardien, c'est pas mal. Mais ballon d'or, moi, le ballon d'or, je déteste. Alors, c'est les critères. Moi, les titres, pas les titres. J'espère que le mondial des clubs ne va absolument pas compter, parce que on verra, mais je ne mets pas trop d'importance. C'est le joueur qui a fait du leadership sportivement pour son équipe. C'est-à-dire, quand tu sens l'équipe, vas-y. C'est toi qui dois nous tenir. Donc, je mets Dembélé, sûr et certain, et je mets Yamal. Oui. C'est deux jeunes. Parce que là, on en a parlé avant l'émission. Tu sens que Barcelone contre l'Inter dit à Lamine Yamal, vas-y, fais-nous quelque chose, perds les ballons que tu veux. C'est toi. On le voyait dans leur jeu que c'était sur lui. Eh ben, Dembélé, la saison qu'il fait, où on l'avait mis à un moment donné, tout le monde l'enterrait parce qu'il mange les pizzas, parce que machin. Là, il a continué. Et puis, comme par hasard, c'est un joueur qui a tout cartonné. Donc, moi, je mets les deux. Alors, un qui a le temps, l'autre qui mérite. En plus, il gagne la Champions League. Mais ce n'est pas le fait de la gagner, en fait, où je veux mettre ça, l'accent sur mes critères à moi.
Ouais, ouais. Bien, alors, je pense qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour parler un petit peu avec nos invités. Vous le savez, François Mouvandje est là, Kevin Babou est là, Carlos Varela est là, trois anciens Servettiens autour de la table. On va d'abord commencer par toi, Kevin, 30 ans depuis le mois d'avril. Tu as fini ta saison avec Midtjylland, la première de tes deux saisons à Midtjylland. Comment s'est passée cette saison? Vous n'avez juste pas décroché le titre.
Ouais, je ne sais pas décrocher le titre, une petite déception. Mais après, voilà, je pense qu'on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes parce qu'au début des play-offs, on avait 4 points d'avance. Ensuite, voilà, quelques contre-performances. Et voilà, malheureusement, on perd ce titre. Puis, la seule chose maintenant, c'est de regarder vers l'avant et de corriger ça la saison prochaine et de ramener ce titre dans la campagne du Danemark.
Dans la campagne du Danemark, question de l'Alabé. Est-ce qu'il y a des particularités dans ce championnat que tu n'as pas connu ailleurs ?
Championnat, comme je te disais avant, très axé sur les coups de pied arrêtés pour chaque équipe. Et par exemple, nous, au centre d'entraînement, on a un classement sur un mur des différences de buts sur les coups de pied arrêtés.
Ah ouais.
Et cette année, on a fini loin devant avec plus 20. Et ce qui fait la fierté quand même du club, parce je pense qu'on est dans les 5 meilleures équipes au monde. Au niveau coup de pied arrêté.
Ah ouais, donc vous travaillez ça régulièrement avec des entraîneurs spécifiques et des entraînements spécifiques?
Ouais, on a un responsable de coup de pied arrêté qui...
Il y a une coupe pour ça.
malheureusement pas pour
genre
lui.
Genre on a perdu le championnat d'un point, mais bon.
Mais on a la coupe là, des idées.
En plus, ce qu'ils m'ont dit en début de saison, ils ont dit si on a plus 20,
ouais,
normalement on est champion.
Ah, statistiquement.
On a fait plus 20, statistiquement. On en parlait une statistiquement. Date. Mais voilà, on a eu plus 20 et on a pas fait
champion. Ça a cassé les datas, ça.
Colin te demande quel est le plus beau match de ta carrière.
Ah, je pense Suisse-France. Hein.
Ce match, on en parlera.
Ce match exceptionnel. Et en
Bucarest.
Plus, ouais, à Bucarest, exactement. Et je pense que c'est la seule fois qu'on a vu toute la Suisse décoincée à célébrer partout. Et je vois encore des souvenirs, des vidéos qu'on m'envoie de partout en Suisse où les gens, ouais, ils ont fait la fête comme jamais. C'est vraiment un moment inoubliable.
C'est un moment, en fait, où on se souvient exactement avec qui on était, où on était. Toi, François, par exemple, tu te souviens à ce moment?
Oui.
Moi, tu faisais quoi? Tu étais à Toulouse.
Ma famille aussi, là, tellement content parce que je peux sortir fièrement dire que...
Ouais. Et t'as aussi eu le moment où tu disais, oh, c'est mort, il y a le penalty raté.
Ouais,
il y a
le penalty.
T'as eu ce moment?
Ouais, juste ce moment, c'est purée. Et après, quand ils ont remarqué, et je savais que tout était possible dès qu'on prend un but.
Moi, c'était beau, j'étais à Genève. Ça colle bien avec le truc. C'est la première fois que je suis sorti dans la rue à fêter avec les Suisses, avec des drapeaux partout. Et même eux, ils se disaient, les gens disaient, non, on voit les Italiens, on voit les Espagnols, mais nous,
ouais.
On parle pas d'une finale. Non, c'est clair. J'étais avec notre collègue Elodie Croza et on était 15 ans, on avait dans la rue et tout.
C'était génial. Ouais. Il y a plusieurs fans justement de la Nati qui te demandent si tu penses au Mondial 2026.
Oui, évidemment, c'est toujours un objectif que je garde en tête. Je me sens bien physiquement, j'ai fait une bonne saison, enfin une très bonne saison individuellement. Et voilà, c'est à moi de montrer que je mérite d'être sélectionné. Après, voilà, la sélection ne dépend pas de moi. Le coach prendra sa décision au moment venu, mais voilà, moi en tout cas je donne le meilleur du possible sur le terrain, ouais, et ensuite on verra si je reçois la convocation.
T'es en vacances à Genève, donc déjà merci d'être venu pendant tes vacances. T'as un contrat jusqu'en 2026, et évidemment beaucoup de gens veulent savoir si un éventuel retour au Servette FC, je ne sais pas quand, à un moment donné, est-ce que c'est possible? Attention, parce que tu peux en décevoir beaucoup. Mais oui, non, pourquoi? Est-ce que c'est dans ta tête?
Sur le court terme, non. Mm-hmm. Mais évidemment, ce serait formidable de boucler la boucle, parce que j'ai fait mon premier match professionnel à Servette, et si je pourrais finir ma carrière à Servette, ce serait évidemment quelque chose de bien, que je serais content d'accomplir. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité. Servette, ils ont un très bon latéral droit qui était, je pense, dans l'équipe de l'année de Senoumoto, je pense, qui performe bien. Et je pense qu'au jour de service, Servette n'a pas besoin de moi dans l'absolu. Mais évidemment, j'espère peut-être un jour reporter le maillot grenat.
Alors attention, accroche-toi bien, parce que on a des gens qui te voudraient à Sion, on a des gens qui te voudraient à Lausanne, il y a des gens qui te voudraient à Ibé ou à Bâle. Est-ce que, voilà, il y a des trucs quand même impossibles, incompatibles avec, avec quelqu'un qui a porté le maillot de Servette. J'imagine bien que François ait fait le pas.
Malheureusement, je pense, Sion à Lausanne et Bâle, malheureusement, par respect pour Ibé, parce que... On sait que ces deux clubs...
Il en reste plus beaucoup, du coup.
Et qu'il reste Ibé ou Servette. Il finira sa saison, sa carrière à Ibé ou à Servette.
Non, ouais, voilà. Moi, si je devais revenir en Suisse, ce serait entre ces deux clubs. Parce que c'est vraiment Servette là où j'ai commencé et Servette là où on a écrit une page de l'histoire après ce titre, après 32 ans, qui était, je pense, ça, c'est mon deuxième meilleur souvenir. 28 avril 2018, si je me rappelle bien. Avec cette soirée exceptionnelle, avec ce scénario aussi fou. Et voilà, si je dois choisir, ce serait entre ces deux clubs.
Ouais, il y a aussi. Et ouais, je me rappelle, Wolf-Licker est un penalty, puis après, il y a le goal de Jean-Pierre Nsamé.
Supporter qui vole la transversale après le match.
Ah ouais,
ouais, ils l'ont volé et le club avait fait, je crois, un petit communiqué pour demander de le
rendre. Rendez-la nous.
Il a connu à IB ce que j'ai raté. C'est un peu dur à encaisser. Ouais. Parce qu'on était tout proche, perdu des filles dans le palais championnat. Génération arrive, allez,
bim,
j'offre le titre, tranquille.
François, toi, t'as quitté Servette en 2013. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'aurais pu revenir à Servette dans ta carrière? Maintenant qu'elle est terminée, tu peux peut-être nous en dire un peu plus?
Je pense qu'avant Sion, j'ai eu des discussions un peu avec Sanderous, qui était sport directeur, et Johan Loche, mais après, qui n'ont pas abouti plus que ça. Parce que dans mon idée, c'était encore peut-être repartir encore à l'étranger. Mais sauf qu'après, j'ai eu un changement familial et j'ai dû prendre des décisions parce que ça mène à moi la meilleure solution à faire.
Et toi, Carlos?
Est-ce
qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu aurais pu revenir à Servette?
J'ai fini à Servette.
Mais entre-temps, je dis, est-ce qu'il y a eu des moments où tu es parti, tu aurais pu revenir?
Non, parce que j'ai eu la chance de connaître Bâle, Ibé. Jamais de raison de quitter le club. Et puis après, j'étais allé à Xamax. Ça, c'est tout s'est fait, mais jamais tu fermais la porte.
Ouais.
C'est même pour moi une chance, encore merci, d'avoir fini où tu as commencé. Donc,
c'était naturel pour toi de terminer
Mais tu dois leur dire merci quand même. J'étais aux États-Unis et ils m'appellent pour venir. Donc, ce n'était pas écrit d'avance, mais c'est clair, tu dis jamais non.
Est-ce que c'est un risque pour vous de terminer ou de revenir là où on a laissé un très bon souvenir? On peut prendre plusieurs exemples de deuxième expérience qui s'est moins bien passée. Est-ce que c'est un risque?
Avant qu'il y ait, le risque, c'est pas, pour moi, c'est de revenir trop vieux. Tu sais, j'aime les retours forcés en disant on finit, puis en fait, les gens, t'es quand même leur espoir, ils veulent quand même que tu reviennes et puis que ça performe. Et j'adore les boucles fermées, mais pas à 37, 38 ans où c'est juste pour la forme. Puis là, du coup, tu peux risquer de laisser un visage qui n'est pas le tien, parce que les gens, les jeunes et tout, ils vont garder sur celui-là. Donc c'est juste ça qui me dérange.
Shaqiri, Granit Xhaka par exemple aussi. Shaqiri est déjà revenu, Granit Xhaka a annoncé la semaine dernière qu'il reviendrait à un moment ou à un autre. Voilà, ce genre de retour-là, quand on a laissé une impression aux gens et qu'ils t'ont là en haut, et quand tu reviens, tu dois au moins être aussi haut, voire plus haut.
Mais moi je pense que déjà en tant que joueur, on est prêt. Si on sait qu'on retourne à la maison, c'est qu'on est prêt à relever le défi. Après, mon cas particulier, c'est vrai que j'aurais aussi préféré revenir à Servette. Mais malheureusement, comme je dis, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons.
Alors, il y a Grégoire qui nous demande si on va parler du Lausanne Sport. Alors, on a tellement parlé du Lausanne Sport lors des dernières émissions de match après match qu'on va simplement mentionner le fait que Lausanne Sport sera européen la saison prochaine grâce au FC Bâle qui a remporté la Coupe aujourd'hui contre Bienne. Comme ça, on a fait la parenthèse Coupe de Suisse, mais on va profiter évidemment d'avoir Kevin et François pour continuer à écouter sagement leurs propos. Peut-être juste une question Servette avant de passer. C'est à toi, François. Servette qui est dauphin de Bâle, qui fait de nouveau une très belle saison. Deuxième fois que Servette est deuxième sur les trois dernières saisons. Une très belle saison. Maintenant, il va y avoir quand même beaucoup de départs. Il va y avoir un gros chamboulement, j'ai l'impression, cet été. Il y a déjà un attaquant qui est arrivé. Mais comment vous jugez la saison du Servette FC, tous les deux?
Ça va être beaucoup de travail pour Johan Loche, je pense. Mais j'ai pas de soucis parce qu'il a, très souvent fait des très bons choix. Mais je sais que Servette, ils ont. En plus, le problème, c'est qu'en Suisse, la pause est tellement courte que c'est difficile d'avoir ton effectif complet au début de la préparation. Du coup, je pense que Servette, idéalement, 2-3 semaines avant le début du championnat, il doit être prêt parce qu'ils ont aussi les.
Calif de Calif.
C'est quoi, 3 tours aussi, c'est ça, je pense, du coup, devoir avoir leur effectif prêt mi-juillet. Et après, je sais qu'aussi, par exemple, par rapport au Bâle, IB, c'est pas le même budget. Du coup, le recrutement est complètement différent. Servette, c'est en plus des joueurs gratuits ou des prêts. Et ça, je pense aussi, ça handicape pas mal aussi sur les choix de recrutement. Mais j'ai pas de souci par rapport au fait que Servette va faire des bons choix dans le recrutement parce qu'on a pu voir dans ces dernières années. Servette a une équipe de haut tableau qui est stable. Et voilà, il manque quelques détails pour aller chercher ce championnat. Mais voilà, j'espère que ça pourra arriver dans quelques années. Mais même s'il y a encore
un petit gap.
Un petit gap.
François. Ouais, je pense qu'il y a sûrement ce petit cap à faire encore. Ils ont fait ces deux dernières années vraiment des très belles saisons. Cette année, c'est vrai que j'ai vu un moment où ils avaient la possibilité de prendre de l'avance, ou ce que justement, ils n'ont pas pu le faire. Justement, ça, deux fois ça coince, deux fois au niveau des Servettes, à proposer ça. Et je trouve que moi, personnellement, ils auraient pu aller chercher encore mieux que la deuxième place pour cette saison.
Mmh. François, t'as décidé de mettre un terme à ta carrière il y a quelques semaines, à 34 ans. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision, tout simplement?
Tout simplement ma famille. Ma femme et mes enfants, ça faisait 2 ans que j'étais loin d'eux. Mmh. Et quand tu as des enfants, une fois sur deux, ou bien à l'étranger, c'est compliqué. Et j'ai envie d'avoir mes enfants proches de moi. Et c'est ce moteur-là, quand je les ai au téléphone, mais pas en face de moi, c'est ça.
Carlos, toi aussi, t'es passé par là, ce moment où, en fait, il faut choisir, il faut faire un choix, il faut pas jouer trop longtemps, il faut laisser un bon souvenir. Ça se fait plus dans le corps, enfin dans les jambes ou dans la tête, ce genre de...
Non, moi je pense que ce qui arrête des fois, c'est... Bon, on en a parlé avant, ça vient ensemble. Tu décides d'arrêter pour une raison, puis il y en a qui arrivent tout de suite à switcher et dire c'est terminé. Quand le corps te lâche, c'est plus facile. Parce que tu peux plus y aller, tu dis bon, j'ai mes genoux qui vont plus. Moi j'ai eu extrêmement de chance parce que j'ai pu tirer jusqu'à 40 ans dans une équipe super ambitieuse qui était Koenitz, qui voulait de partir de la deuxième, aller en challenger, puis on l'a fait. Donc ça m'a fait finir en douceur. J'ai pu éduquer mes enfants tout en jouant, en restant dans le foot. Donc en fait, j'ai pu finir en douceur parce que je n'étais pas prêt du tout à que ça s'arrête. Mais souvent, c'est les deux choses qui vont en même temps. Parce qu'au plus, on en a parlé, il y a des gens, ils arrivent à switcher. Mais celui qui est fit, qui n'a pas d'offre, qui a 35 ans, il y a la dépression. Après, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est presque mieux d'être à la cave physiquement. Ouais. Que ce soit limite pas un choix, en fait, que ce soit le corps qui te dise d'arrêter.
Que t'as donné le football?
Ouf, bah énormément. Hein. Bah déjà pour moi, la culture, on va dire, j'ai découvert pas mal de cultures différentes. Ça m'a permis de me connaître moi-même en profondeur et savoir aussi pouvoir de nos autres.
T'es né au Cameroun, t'es arrivé en Suisse, t'as commencé à jouer à Meyrin, et là il y a The Swiss Kid qui a une question pour toi. À quel point le FC Meyrin a-t-il impacté ta carrière?
Énormément, parce que j'ai quitté Servette en moins de 16. J'étais très timide, j'avais à peine un peu à la croissance. Et Meyrin, j'y vais en tant que jeune, mais directement je joue avec les plus grands. Ils ont cru en moi sans forcément me l'annoncer directement. J'ai pu voir par rapport aux gestes. Et il y a une anecdote par rapport à ça, c'est qu'il y avait l'équipe de Suisse, notamment où Oscar Giroud et Gelson qui s'entraînaient. Et j'étais derrière la vitre avec, il s'appelait Luis Moes, un directeur sportif et joueur. Et je regardais derrière la vitre comme ça, et je lui ai dit, je vais être là-bas. Et il me regarde et il me dit, mais travaille, tu iras. Je lui ai dit, mais dans quelques années, je serai là-bas. Et c'est marrant parce que ma volonté, comme dit Carlos, je savais où je voulais aller et j'y allais.
Ouais, et c'est beau, hein, parce qu'effectivement, tu as atteint l'équipe de Suisse, tu as joué plusieurs fois avec le maillot de la Nati, un euro, une Coupe du Monde, sans jouer malheureusement la moindre minute. Est-ce que c'est un des regrets ou un regret dans ta carrière?
Oui, je pense, parce que j'aurais mérité en tout cas de jouer, clairement au niveau des entraînements. Après maintenant, on avait aussi un coach qui avait ses idées, qui ne changeait pas comme
M. Hakim le fait aujourd'hui. Donc on avait une équipe aussi très très compétitive. Donc on a pu faire aussi les belles années de l'équipe de Suisse. Amener, je pense, à tirer dans le top 10 de classement en FIFA. Donc oui, certes, j'aurais voulu participer parce que j'aurais pu accepter amener ma pierre à l'édifice dans ces compétitions.
Ouais, on en est certain. Alors Kevin a parlé tout à l'heure de son match, son meilleur match, le plus beau souvenir de sa carrière, c'est évidemment ce Suisse-France. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à réagir sur notre page YouTube. C'est aussi votre match référence, votre match préféré de la Nati. Moi, j'ai une question sur ce Suisse-Suède de la Coupe du Monde 2018, cette élimination en huitième de finale, qui nous a tous profondément choqués pour la manière dont vous avez été éliminés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu es d'accord quand on dit que il y avait largement moyen de passer et que cette rencontre-là, ce huitième de finale-là, il fallait aller en quart.
C'était l'autogol, hein ?
Ouais.
Oui, largement. En tout cas, tous les joueurs qui ont participé à ce match, on a eu une profonde déception. Parce qu'on a senti vraiment qu'il y avait quelque chose à chercher. On se voyait vraiment passer contre la Suède. Et maintenant, ça arrive en foot. Hein. Uh-huh. Donc... Après, par la suite, il faut tourner la page parce que sinon, il y a beaucoup d'étapes après, par la suite, à cheminer.
Mmh. Horrible contre la Suède, autogol de Akanji. Hein, Rocksnakes se souvient parfaitement. Vous aviez presque pas joué. Vous aviez presque refusé de jouer alors qu'il y avait franchement de quoi faire. C'était quelque chose dont vous aviez parlé.
Mais il y a aussi, on va dire, ce moment de complexité parce qu'on sait qu'on joue quelque chose de particulier. Ouais. Donc, il y a cette triste passion au début. On n'a pas réussi à se libérer comme on voulait. Et c'est ça, je pense, qui a un peu peiné l'équipe. Et moi, je me rappelle très bien à ce moment-là, quand il se met sous Togo, je vois son visage décomposé. Mm. Parce qu'il se prend pour lui.
Ouais.
Alors que ce n'est pas sa faute. En tant que réel, ça a dévié. C'est,
ouais.
C'est l'équipe en tant que telle. Mais bon, après... je suis content par rapport à son acheminement après.
Ouais.
Et l'homme que c'est devenu. C'est comme on parle, les moments difficiles où des personnes de caractère amènent à des grandes choses.
Ouais, il a une carrière extraordinaire hein. Quand même. On n'oublie pas qu'il a fait Winterthur, Bâle, Dortmund, City. Il n'a pas de bol avec l'équipe de Suisse. Hein, entre l'autogol, le penalty manqué, etc., etc. Kevin, toi, tu étais dans l'équipe de Suisse qui a battu la France. On en a parlé brièvement avant. C'est le souvenir de dingue de tout le monde. Tu étais même sur le terrain lors de cette séance de tir au but. C'est le moment où, en fait, on a compris, nous, supporters ou journalistes, mais vous, surtout, joueurs, que vous avez cassé ce plafond de verre et puis que vous pouviez répéter ça. D'ailleurs, vous l'avez refait, enfin, la Suisse l'a refait plutôt contre l'Italie en 2024. Ce match, c'est le match référence de l'équipe de Suisse.
Oui, je pense que pour tout le monde, on a montré que l'équipe suisse, qu'on n'était plus des petits Suisses, qu'on peut rêver grand, accomplir des choses. Et après, je pense aussi que ce match a eu énormément d'ampleur quand on regarde tout ce qui se disait dans les médias, surtout du côté de la France, avec Domenech, par exemple, et d'autres journalistes. Et après, même, j'ai aussi vu quelques joueurs de l'équipe de France un peu trop confiants. Un joueur qui est venu vers moi avant le match, qui m'a demandé si j'avais déjà réservé mes vacances.
Ah voilà.
J'ai pas à dire qui c'est, mais voilà. Après, à la fin, il est venu au vestiaire et il nous a quand même félicité en tant que. Il a. Parce qu'on voilà, on le connaît bien, quelques joueurs le connaissent bien, mais c'est vrai que ce match-là a montré que la Suisse est capable de battre des grandes équipes et je pense qu'en continuant à bien travailler, la Suisse pourrait aussi créer une petite surprise l'année prochaine.
Du coup, tu lui as donné ton ticket d'avion et tout ça ou...
J'ai donné quelques destinations.
C'est qui ?
Ah, Carlos, il veut savoir. Okay. Carlos,
il a joué hier soir. Oui, il a joué hier soir.
Il a joué hier soir.
Ah. Donc, c'est un Parisien. Ah non, c'est un joueur...
Il a joué hier soir.
Un joueur d'Inter.
Je laisse réfléchir.
Carlos, tu réfléchis parce que moi, je dois presque conclure. Est-ce que Régis peut me dire combien de temps j'ai encore ? Est-ce que j'ai encore une question pour François ? Alors, j'ai une question pour François. Tu cherches, on veut savoir le nom.
Juste un autre truc pour Révin.
Ouais, vas-y.
Avant ce match contre France, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que pour ces deux matchs qui changent, Belgique. C'est Belgique.
Suisse-Belgique.
C'est devant la Suisse-Belgique.
Oui.
Le 5-2, je crois.
5-2, on perdait 2-0. Ouais.
C'est ça, en fait, où je vois le changement, où la Suisse a montré qu'on peut...
C'est en Ligue des Nations ?
En Ligue des Nations, ouais, on devait. Et après, on fait les finales au
Portugal. On l'a oublié, celui-là. On est resté sur battre les Français.
Ouais. Qui s'en racontait, c'est ça aussi.
Bon, François, une dernière question. C'est Roxney qui la pose. Meilleur souvenir à Zagreb ou au TFC ? En fait, je pense que sa question, c'est pas l'un ou l'autre. Ton meilleur souvenir à Zagreb, je pense que c'est moi qui l'ai posé, qui ai mal posé la question.
Bon, on va parler de TFC, c'est le maintien, comme aussi incroyable avec Duprat, parce qu'on était condamnés complètement. Et on n'y croyait plus. En tant que joueur, on était tous là, on s'est dit qu'on est deux. Pourtant, on avait dans le papier pour jouer vraiment, on va dire, les 7 premières places de Ligue 1.
Ouais.
Et Duprat, il arrive après, il reste 10 journées. Il nous dit, mais il reste 10 journées, mathématiquement, c'est encore possible. Il vient à l'entraînement, il nous entraîne et il fait une crise cardiaque.
Oh.
On s'est dit, punaise, il ne peut pas supporter. Il a vu l'entraînement, il n'a pas pu supporter. Et on allait jouer à Marseille.
Ouais.
Et on allait jouer avec l'assistant. Et je ne sais pas, cet événement nous a fait quelque chose.
Ouais.
Et on fait un super match à Marseille. Et c'est comme ça qu'on consolide cette remontée. On a fait vraiment une remontée digne d'un champion. Quoi.
Ok. Et Zagreb,
mon souvenir, c'est le match de la Ligue des Champions contre City. C'était un moment particulier. Et encore plus particulier parce que mon deuxième fils, il devait arriver. Et je disais, punaise, j'ai mon match de Ligue des Champions, j'ai mon fils qui va arriver. Donc, je ne savais pas trop. Donc, finalement, j'ai joué au moins de Ligue des Champions. Le lendemain, j'ai pris mon vol et mon fils est arrivé.
Magnifique. Voilà. Magnifique. Merci infiniment, François, d'être passé nous voir. C'était vraiment très intéressant de t'entendre. Kevin, merci aussi. Bonnes vacances à toi. Bonne retraite également à toi, François. Merci. On espère te revoir très bientôt. Carlos, nous, on se revoit la saison prochaine. Aussi. Bien sûr, bonnes vacances également. J'aimerais profiter juste de ces quelques secondes pour remercier toute l'équipe de Match Après Match, tous mes collègues qui m'envoient tous les dimanches du contenu depuis les stades, des interviews qui prennent le temps pour que cette émission existe, qui la chérissent tout autant que moi. Elle est très importante pour moi, évidemment. Merci à Régis Berisville qui a piloté cette émission. Et surtout, un grand merci à vous. Cette émission existe aussi grâce à vous, grâce à vos questions, grâce à vos sollicitations, grâce à vos idées, grâce à vos propositions. Je vous souhaite de très, très belles vacances. On se revoit déjà le mois prochain pour la reprise de la Super League. Et oui, on est le 1er juin. Ce sera au mois de juillet. Ciao !